Chapitre 18. Friedrich Nietzsche. Mauvais et méchant. Sublime mensonge à soi-même qui consiste à interpréter la faiblesse elle-même comme liberté et les avatars de cette faiblesse comme mérite. Friedrich Nietzsche est un philosophe et poète de la fin du XIXe siècle dont le visage semblait dévoré par une moustache de plus en plus proéminente à mesure qu'il s'avançait en âge et que sa santé se dégradait. À 44 ans, sa bouche disparaissant tout à fait sous une impénétrable muraille de poils, après une décennie d'activité intellectuelle d'une intensité croissante, au cours de laquelle il accoucha d'un nombre impressionnant d'œuvres majeures, ainsi par les Zarathoustra fut publié entre 1883 et 1885, Par de la bien et mal en 1886, Généalogie de la morale en 1887, et dans la seule année 1888, Nietzsche rédigea rien de moins que Le Cas Wagner, Crépuscule des idoles, L'Antéchrist et Ecce Homo. Et dans les premiers jours de 1889, Nietzsche fut pris d'une violente crise de démence, inonda ses correspondants de lettres mégalomaniaques sans queue ni tête, fut interné à la demande de ses proches, puis se mura dans le silence pour les 10 dernières années de sa vie. L'origine de la maladie reste aujourd'hui discutée, mais l'hypothèse la plus souvent avancée est celle de la syphilis, conséquence d'un détour de jeunesse par un bordel de Cologne ou de Leipzig. Les lettres mégalomaniaques envoyées au début de 1889 sont connues comme les billets de la folie. En voici par exemple une adressée à Cosima Wagner, veuve du compositeur. « À la princesse Ariane, ma bien-aimée, c'est un préjugé que je sois un homme, mais j'ai déjà souvent vécu parmi les hommes et je connais tout ce que les hommes peuvent éprouver, du plus bas au plus haut. J'ai été Bouddha chez les hindous, Dionysos en Grèce, Alexandre et César sont mes incarnations, de même que le poète de Shakespeare, Lord Bacon. Enfin, je fus encore Voltaire et Napoléon, peut-être Richard Wagner. Mais cette fois, j'arrive tel le Dionysos vainqueur qui va transformer la terre en jour de fête. Non pas que j'aurai beaucoup de temps. Les cieux se réjouissent que je sois là. J'ai aussi été pendu à la croix. » Lettre à Cosima Wagner du 3 janvier 1889. Nietzsche est un écrivain extraordinaire et par sa postérité intellectuelle, son œuvre est une des plus importantes du XIXe siècle. On pourrait la présenter, en première approximation, comme une critique des valeurs décadentes qui, selon lui, imprègnent la culture européenne, tout particulièrement les valeurs morales héritées du christianisme. J'imagine en cet instant quelques fanatiques nietzschéens dont le sang n'a fait qu'un tour, m'accusant déjà d'avoir commis je ne sais quel contresens profond, s'indignant que j'ose écrire sur une œuvre dont je n'ai manifestement pas su sonder les abysses, ni escalader les sommets, qui descendent ou s'élèvent, je m'y perds un peu, bien au-delà des platitudes auxquelles mon grossier aperçu l'a réduit. Nietzsche fait en effet partie de ces auteurs qui, en dehors des cercles universitaires où cette tendance est plus rare, traînent après eux une poignée d'adorateurs zélés, souvent récemment convertis, toujours prompts à vous pourfendre pour n'avoir pas saisi la puissance et le génie de cette pensée qui les a bouleversés. Les écrits du maître laissant une large place à l'interprétation, chacun de ces fidèles enthousiastes est enclin à se construire un petit Nietzsche bien à lui, taillé sur mesure pour justifier ses propres valeurs, de sorte que ces divers nietzschéens ont en fin de compte davantage de vocabulaire que d'idées en commun. Ils formuleront les mêmes opinions sentencieuses sur la moraline, le troupeau, le nihilisme qui empoisonne la conscience européenne, ou sur la volonté de puissance, le surhumain, l'éternel retour, etc., mais n'entendront probablement pas les mêmes choses sous ces mêmes mots qui leur servent surtout à signaler leur allégeance intellectuelle et à communier dans l'admiration du pétulant moustachu. Au demeurant, il me paraît assez probable que Nietzsche aurait eu lui-même le plus profond dégoût pour cette foule de nietzschéens approximatifs qui s'enorgueillissent de citer exactement sa parole. Il m'est odieux de suivre autant que de guider. Nietzsche, Le Gai Savoir, première partie, paragraphe 33, premier vers. Tout cela ne retire rien à l'œuvre de Nietzsche. Elle vaut justement bien mieux que ceux qui s'en réclament. Ses écrits sont parmi les plus fascinants que j'ai lus. Je dois dire que j'ai eu moi-même une période nietzschéenne durant laquelle j'ai dévoré la plupart de ses livres. Mais il me semble, rétrospectivement, que c'est davantage la force de son écriture que la finesse de ses idées qui produisait cet ensorcellement. En y revenant plus tard et en l'abordant sous un angle plus philosophique, je devais reconnaître que ces livres sont souvent bien minces en arguments et que l'épaisse couche littéraire sous laquelle ces idées sont enrobées ne facilite pas le travail de celui qui veut les comprendre et les discuter. Pour ce chapitre, je vais me pencher sur un passage de la généalogie de la morale dont les idées principales, à défaut d'être rigoureusement justifiées, me semblent assez intuitives et stimulantes en elles-mêmes. En outre, elles vous donneront quelques clés utiles pour aborder plus facilement le reste de la pensée de Nietzsche, s'il vous plaît de vous y aventurer. Il y a deux grandes façons d'aborder la philosophie morale. L'approche dont on a déjà présenté divers exemples, que ce soit à travers les stoïciens, Kant ou les utilitaristes, était normative ou prescriptive. Il s'agissait de justifier telle ou telle norme morale, telle ou telle façon de porter des jugements de valeur, de décider ce qui est bien ou mal, ou quelle est la bonne façon de mener sa vie. Mais il y a, avant cela, un autre sujet d'étude tout à fait légitime et important. Puisque nous portons intuitivement des jugements de valeur, sans que nous cherchions à les justifier par quelque théorie philosophique que ce soit, pourquoi ne pas commencer par examiner d'où nous viennent ces intuitions morales ? Ont-elles une logique ? Une cohérence, une fonction? Peut-on décrire et comprendre la façon dont les êtres humains établissent des normes, attribuent de la valeur, désignent ceci ou cela comme bon, bien, etc. C'est un sujet d'étude important aujourd'hui en philosophie morale et qui tend de plus en plus à être également abordé par la psychologie, notamment la psychologie évolutionniste. En opposition à l'approche prescriptive, on parle alors d'une approche descriptive de la morale. Le propos de Nietzsche dans la première dissertation de la généalogie de la morale peut justement être compris comme relevant de cette approche descriptive. Nietzsche n'est sans doute pas si descriptif que cela. Son mépris pour la morale judéo-chrétienne est palpable dans le style. De façon générale, tous ces textes qui font la généalogie de jugements de valeur semblent eux-mêmes pétris de jugements de valeur. Le mot « généalogie », dont Nietzsche fait un usage très particulier, provient du grec « genos » qui signifie « origine » ou « naissance ». Ainsi, au contraire de Kant, par exemple, pour qui l'impératif catégorique est censé valoir universellement, de sorte qu'il serait aussi absurde de chercher comment l'obligation morale est née que de se demander quand 2 et 2 ont commencé à faire 4, Nietzsche voit dans la morale un phénomène contingent, apparu en certaines circonstances particulières, et la tâche du généalogiste serait de remonter jusqu'à cet acte de naissance. Au sens historique, il pourrait s'agir d'identifier les premières formes de jugements moraux dans les civilisations passées. On peut aussi entendre la question en un sens psychologique. Il s'agirait d'appréhender le développement et la formation des intuitions morales chez l'individu. Pour Nietzsche, l'approche généalogique tient à la fois de l'un et de l'autre et de bien davantage, maelstrom historico-sociologico-linguistico-psychologique, méthode que personne ne saurait vraiment définir ni expliquer et qui présente l'avantage de renvoyer dos à dos tous les experts aux vues étroites. Nietzsche pourra reprocher aux historiens de ne pas être assez fins psychologues, aux psychologues de manquer de sens historique et à tous de ne pas être aussi intelligents que lui. Si la généalogie de la morale est un texte brillant, c'est davantage pour son style que par la rigueur de son argumentation, émaillée de raccourcis historiques et d'étymologies plus ou moins douteuses. Au demeurant, Nietzsche l'assumerait tout à fait. Croyez-vous qu'il s'abaisserait à ergoter comme un vulgaire logicien ? Se justifier est humiliant, bon pour les faibles. Nietzsche exprime à diverses reprises son mépris pour l'argumentation. Par exemple, il écrit « Ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. Partout où l'autorité est encore de bon ton, partout où l'on ne donne pas des raisons mais des ordres, le dialecticien est une sorte de pitre. On s'en amuse, on ne le prend pas au sérieux. » Crépuscule des idoles, le problème Socrate. Cela dit, on peut aussi trouver chez lui des passages faisant l'éloge de la raison et de la clarté. Par exemple, il écrit « Qui se sait profond s'efforce à la clarté. Qui veut paraître profond aux yeux de la foule s'efforce à l'obscurité. » Le Gai Savoir, paragraphe 173. Mais ce sera plus particulièrement dans des ouvrages rédigés plus jeunes comme « Humain trop humain ». Plus Nietzsche avançait en âge, plus il semblait prendre goût à l'écriture prophétique. À bien des égards, Nietzsche ne se soucie pas d'écrire pour être compris de ceux qui ne pensent pas comme lui. Il ne cessera de répéter, par exemple, qu'aucun de ses contemporains ne peut comprendre son Zarathoustra. et je doute qu'il se ferait une meilleure opinion des lecteurs du XXIe siècle. Cela étant dit, et sachant donc que nous n'y sommes pas tout à fait les bienvenus, entrons dans l'œuvre qui nous intéresse. Je vais me pencher sur la première partie de la généalogie de la morale, intitulée « Bon et méchant, bon et mauvais ». Comme ce titre l'annonce, il s'agira d'étudier la notion de « bon » et, plus précisément, le couple qu'elle forme avec sa valeur opposée. La langue allemande, aussi bien que la langue française, suggère deux mots bien distincts. On peut opposer le « bon » « gut » au « mauvais » « schlecht » ou le « bon » « gut » au « méchant » « böse ». Et c'est loin d'être un détail. Les actions que nous jugeons bonnes sont généralement des actions altruistes, c'est-à-dire bénéfiques aux autres, et celles reconnues comme mauvaises ou méchantes sont le plus souvent des actions égoïstes et nuisibles aux autres. Voilà qui pourrait suggérer une première théorie sur l'origine de la morale. Les intuitions morales auraient pour fonction d'inciter les individus à agir d'une façon socialement utile. En effet, dans l'intérêt d'un groupe, il est préférable que les individus soient incités à se comporter de façon altruiste plutôt qu'égoïste. On pourrait donc penser qu'un groupe se portera d'autant mieux que les actions altruistes, utiles à l'ensemble du groupe, tendront à être approuvées comme bonnes, tandis que les actions égoïstes et nuisibles au groupe tendront à être désapprouvées. Et nos évaluations morales naîtraient tout simplement de cette tendance. C'est une théorie plutôt séduisante, et l'on peut noter qu'elle semble encore développée aujourd'hui par les psychologues évolutionnistes, avec en particulier l'idée d'un mécanisme de sélection de groupe qui favoriserait la sélection d'individus au comportement altruiste. Mais si Nietzsche l'évoque rapidement au tout début de son traité, c'est pour la rejeter immédiatement comme une ânerie qui ne pouvait naître que dans l'esprit de ces philosophes anglais saugrenus qui confondent le bon et l'utile. Nietzsche écrira plus tard ce mot parfaitement injuste à l'égard des utilitaristes, mais qui me fait beaucoup rire. « L'homme n'aspire pas au bonheur, il n'y a que l'anglais pour faire cela. » Mais revenons à la généalogie de la morale, où Nietzsche écrit. « Il est pour moi évident, en premier lieu, que cette théorie cherche et place le véritable foyer du concept bon au mauvais endroit. Le jugement de bon ne provient nullement de ceux qui bénéficient de cette bonté. Ce sont plutôt les bons eux-mêmes, c'est-à-dire les nobles, les puissants, les supérieurs en position et en pensée, qui ont éprouvé et posé leur façon de faire et eux-mêmes comme bons, c'est-à-dire excellents, par contraste avec tout ce qui est bas, bas d'esprit, vulgaire et populacier. À partir de ce sentiment de la distance, ils ont fini par s'arroger le droit de créer des valeurs et de forger des noms de valeurs. Qu'avait-il à faire de l'utilité ? Nietzsche, Généalogie de la morale, première partie. Puisque Nietzsche vous dit que cela lui semble évident, que voulez-vous objecter ? Il daignera tout de même confirmer cette évidence par quelques considérations étymologiques sur l'origine du mot « bon ». Ainsi, il écrit « Les expressions forgées par les différentes langues pour désigner le « bon » au sens étymologique remontent toutes à la même transformation de notions. Partout, distingué, noble au sens social, est la notion fondamentale à partir de laquelle se développe nécessairement bon au sens de distingué quant à l'âme, noble au sens de doué d'une âme supérieure, privilégié quant à l'âme. » Nietzsche, Généalogie de la morale. Pour un lecteur contemporain, ces considérations épistémologiques sont assez incertaines, mais peu importe, et tâchons de comprendre plus en détail en quoi consiste cette évaluation morale que Nietzsche pose comme primitive. Les premiers qui aient forgé des valeurs morales, selon lui, ne seraient donc pas ceux qui reconnaissaient les actions des autres comme leur étant bénéfiques et qui les approuvaient pour cette raison. Cela reviendrait à avouer sa faiblesse, son besoin d'être aidé, son incapacité à faire soi-même son propre bien. L'évaluation morale originelle, selon Nietzsche, viendrait tout au contraire des puissants, des forts, de ceux qui n'ont pas besoin de bénéficier d'un altruisme méprisable, et cette évaluation n'aurait donc pas pour fonction de célébrer les actions des autres, mais au contraire de se célébrer soi-même. Ils se reconnaissaient eux-mêmes comme supérieurs, plus nobles, plus distingués. Ce sont les meilleurs, ceux qui excellent, ceux qui réussissent là où les autres échouent. Et ainsi, triomphant, ils créent une évaluation morale en se posant eux-mêmes comme étalons de valeur. Ce que nous sommes, voilà ce qui est bon. Nietzsche désigne cette évaluation comme la morale des maîtres. L'expression « morale des maîtres » est la plus répandue chez Nietzsche. Il l'utilisait déjà dans le paragraphe 260 de « Par delà bien et mal » qui contient sous une forme plus condensée une large part de la généalogie de la morale. Mais pour la suite, je parlerai plutôt dans le même sens de « morale aristocratique ». Notez bien qu'il ne faut pas entendre ces mots en un sens strictement social et politique. Certes, Nietzsche semble bien associer cette évaluation morale à des classes dominantes de certaines périodes de l'histoire, comme l'aristocratie romaine ou la noblesse française de l'Ancien Régime, mais le niveau de discours de Nietzsche ne se réduit pas à cette dimension. Comme je le soulignais un peu plus tôt, sa méthode généalogique est une étrange mixture qui mêle, au moins, l'histoire, la sociologie, la politique, la psychologie, la linguistique. Aussi faut-il entendre la supériorité aristocratique dans cette morale des maîtres en un sens qui recouvre ces différentes dimensions. L'idée de noblesse l'illustre assez bien. Ce mot renvoie d'abord à un rang social supérieur, la noblesse politique, mais il peut renvoyer aussi à un trait psychologique, la noblesse de caractère ou la noblesse d'âme. Et enfin, le langage lui-même peut être dit noble ou vulgaire. Ce dernier aspect n'est pas un détail. Le fait que la supériorité aristocratique se manifeste aussi dans le langage est un point sur lequel Nietzsche revient très souvent. Ainsi, il écrit « Le droit seigneurial de donner des noms s'étend si loin qu'on devrait s'autoriser à considérer l'origine même du langage comme une manifestation de la puissance des seigneurs. Ils disent « c'est ainsi et pas autrement ». Ils scellent toute chose et tout événement par un son et en prennent ainsi possession en quelque sorte. » Autrement dit, pour Nietzsche, donner un nom est un acte d'autorité. C'est le privilège des maîtres, des puissants. Et ils forgeraient justement la morale aristocratique en se nommant eux-mêmes comme étant les bons. La morale aristocratique ne désigne pas une théorie morale particulière, mais plutôt un certain type d'évaluation morale qui a pu se manifester de diverses façons. La notion grecque d'arété, c'est-à-dire l'excellence ou la vertu, dont j'ai longuement parlé dans les chapitres consacrés au stoïcisme, pourrait par exemple être comprise comme une manifestation de ce type d'évaluation morale. Être vertueux en ce sens grec, c'est exceller, c'est réussir dans le rôle que la nature nous a donné. De même pour la virtus des Romains, qui renvoie à l'idée de force, de puissance, de courage, particulièrement à la guerre, la virtus étant la valeur du soldat par excellence. Cette exaltation romaine de la force n'est sans doute pas étrangère au fait que Nietzsche voit dans la Rome antique l'incarnation la plus achevée de la morale aristocratique. Les Romains, écrit Nietzsche, étaient bien les forts et les nobles, tels qu'il n'y en a jamais eu jusqu'ici sur terre, et tels même qu'il ne pourra jamais y en avoir de plus forts et de plus nobles. Nietzsche, Généalogie de la morale. À quelle valeur ce bon aristocratique s'oppose-t-il ? Si le bon est celui qui excelle, qui domine, autrement dit le fort qui pose sa force comme valeur, son opposé sera logiquement le faible, celui qui échoue et s'incline. Est-il méchant ? Non, mais incapable, impuissant, raté, nul, il est mauvais, seulement mauvais. Notez toutefois que le mot « mauvais » dans le langage ordinaire ne reflète pas toujours une évaluation aristocratique. Ainsi, quand on parle d'une mauvaise action, nous voulons presque toujours dire qu'elle est mal intentionnée, c'est-à-dire méchante, et non mauvaise au sens aristocratique. Ce qui est mauvais au sens aristocratique l'est au sens où un coup dans un jeu peut être mauvais. Il manque son but, c'est raté, c'est un coup faible. Il n'y a là aucune méchanceté. Ce n'est pas par intention maligne qu'un mauvais joue mal. Il jouerait bien s'il le pouvait, mais il est impuissant à faire mieux que cela. On le plaint. Il est malheureux d'être mauvais. Notez qu'à l'inverse, on ne plaint pas les méchants, on les accuse, et s'ils ont l'impudence d'être heureux, on ne se gênerait pas pour souhaiter leur malheur. En somme, l'évaluation morale primitive selon Nietzsche est celle par laquelle les forts se posent eux-mêmes comme bons et désignent par là indirectement tous les autres comme mauvais. Penchons-nous maintenant sur ces mauvais. Deux mots reviennent sans cesse sous la plume de Nietzsche pour décrire leur psychologie. Haine et ressentiment. Les faibles haïssent les forts, les impuissants haïssent les puissants, sans que cette haine puisse s'assouvir dans un acte. Elle restera donc couvée, intérieure, et c'est cette frustration de haïr sans pouvoir agir, cette rumination de la vengeance qui produit ce que Nietzsche appelle le ressentiment, en français dans le texte. Les faibles sont les hommes du ressentiment. C'est dans ce chaudron que va naître une autre évaluation morale renversant la morale aristocratique. Je laisse la parole à Nietzsche. L'insurrection des esclaves dans la morale commence lorsque le ressentiment lui-même devient créateur et engendre des valeurs. Le ressentiment d'être tel que la véritable réaction, celle de l'acte, leur est interdite, qui ne s'en sortent indemnes que par une vengeance imaginaire. Alors que toute morale noble procède d'un dire oui triomphant à soi-même, la morale des esclaves dit non d'emblée à un extérieur, à un autrement, à un non-soi, et c'est ce non-là qui est son acte créateur. Nietzsche, Généalogie de la morale, première partie. Et je précise qu'il faudra bien sûr entendre l'expression morale d'esclave avec la même largesse de sens que l'expression morale de maître dont je parlais précédemment. Tandis que la morale aristocratique naissait de l'approbation de soi, la morale du ressentiment naîtra de la désapprobation des autres. Les hommes du ressentiment ne peuvent se venger des forts qu'imaginairement en dénigrant leurs actions. Certes, ils ne peuvent pas les dénigrer comme mauvaises, au sens de ratées, nulles, mais ils peuvent blâmer leurs intentions. Leurs actions sont méchantes. Et c'est cette accusation de méchanceté qui sera l'acte fondateur de la morale du ressentiment, à partir de quoi, par opposition à ces méchants, eux-mêmes se considéreront comme bons. Cette construction est ainsi l'exact opposé de la morale aristocratique qui était fondée d'abord sur l'affirmation de soi comme bon. Nietzsche poursuit. Ce mauvais d'origine noble et ce méchant tiré du chaudron de la haine inassouvie, le premier est une création après coup, un à côté, une couleur complémentaire, tandis que le second est l'original, le commencement, l'acte véritable dans la conception d'une morale d'esclave. Et quel contraste entre les deux termes, mauvais et méchant, opposés en apparence à la même notion de bon. Qu'on se demande plutôt qui est vraiment méchant selon la morale du ressentiment. Réponse en toute rigueur, justement le bon de l'autre morale, justement le noble, le puissant, le dominateur, ici simplement travesti, réinterprété et déformé par le regard venimeux du ressentiment. Nietzsche, Généalogie de la morale, première partie. En somme, pour Nietzsche, une fois les bons devenus méchants, les mauvais deviennent bons. Le tour de passe-passe n'est-il pas remarquable ? C'est un complet travestissement, une falsification de valeur. Réapproprié par la morale du ressentiment, le mot « bon » reste le même, mais le sens en est tout bonnement inversé par rapport à sa signification aristocratique originelle. Cela étant posé, nous voilà prêts pour lire et tenter de comprendre un des passages les plus fameux de la généalogie de la morale, la métaphore des agneaux et des rapaces. La voici sous la plume redoutable de Nietzsche. Les agneaux gardent rancune aux grands rapaces, rien de surprenant. Mais ce n'est point là une raison pour en vouloir aux grands rapaces d'attraper les petits agneaux. Mais si ces agneaux se disent entre eux, ces rapaces sont méchants, et celui qui est aussi peu rapace que possible, qui en est plutôt le contraire, un agneau, celui-là ne serait-il pas bon ? Alors il n'y a rien à redire à cette construction d'un idéal, même si les rapaces doivent voir cela d'un œil un peu moqueur et se dire peut-être « Nous ne leur gardons nullement rancune à ces bons agneaux, et même nous les aimons, rien n'est plus goûteux qu'un tendre agneau ». Exiger de la force qu'elle ne se manifeste pas comme force, qu'elle ne soit pas volonté de domination, volonté de terrasser, volonté de maîtrise, soif d'ennemis, de résistance et de triomphe, c'est tout aussi absurde que d'exiger de la faiblesse qu'elle se manifeste comme force. La morale du peuple sépare la puissance des manifestations de la puissance, comme s'il y avait derrière la puissance un substrat indifférent qui serait libre de manifester la puissance ou de ne pas le faire. Mais un tel substrat n'existe pas. Il n'existe aucun être derrière l'agir, le faire, le devenir. L'agent est un ajout de l'imagination à l'agir, car l'agir est tout. Quoi d'étonnant si les affects de vengeance et de haine rentrés et couvant sous la braise ne maintiennent aucun dogme avec plus de ferveur que celui qui affirme que le fort est libre d'être faible et le rapace d'être agneau. On s'arroge ainsi le droit d'imputer au rapace sa nature de rapace. Nietzsche, Généalogie de la morale, première partie. Notons déjà que cette métaphore animalière semble suggérer que la morale aristocratique repose sur une vision du monde où chaque être a une nature propre et figée. On est agneau ou rapace, faible ou fort. Les actes de chacun sont ensuite absolument inséparables de cette nature. C'est pourquoi exiger du fort d'agir comme un faible est absurde, aussi absurde que de demander à un rapace d'être un agneau. Les agneaux, eux, ne voient pas les choses de cet œil. Ils haïssent le rapace qui les dévore, mais ne peuvent rien contre lui. Leur seule vengeance est d'accuser le rapace d'être méchant, acte créateur d'une morale du ressentiment. Examinons de plus près ce que cette accusation recouvre exactement. Le méchant, c'est celui qui ne veut pas être bon, c'est-à-dire faible. Il n'est pas impuissant, il est mal intentionné. À l'inverse, du point de vue de la morale aristocratique, il n'y a aucun sens à ne pas vouloir être bon, c'est-à-dire fort. En effet, qui voudrait être mauvais, c'est-à-dire échoué plutôt qu'exceller ? Le mauvais est celui qui voudrait être bon, mais ne le peut pas. Tandis que du point de vue de la morale du ressentiment, le méchant est celui qui pourrait être bon, mais ne le veut pas. Ainsi, dire que le rapace est méchant, dire que les forts sont méchants, c'est supposer que le rapace pourrait être agneau, que le fort pourrait être faible. Et s'il ne l'est pas, c'est bien seulement parce qu'il ne le veut pas. Pouvoir agir d'une façon ou d'une autre et s'y déterminer en fonction de sa volonté, n'est-ce pas l'idée même d'une action libre ? L'idée de méchant n'est en effet concevable que si celui-ci est libre de ne pas agir méchamment. Et la méchanceté s'attache ainsi avant tout aux actions et non à l'agent, celui qui agit. Car l'agent doit toujours pouvoir être bon aussi bien que méchant. C'est vouloir une action méchante alors que vous pourriez ne pas la faire qui fait votre méchanceté. Voilà pourquoi, selon Nietzsche, toute la morale du ressentiment repose sur la croyance en un libre arbitre. Il faut croire que le fort est libre d'être faible et le rapace d'être agneau. Les visions du monde sous-jacentes aux deux morales sont donc fondamentalement opposées. Pour la morale aristocratique, chaque être a une nature propre dont les actes sont l'expression immédiate, instinctive, absolument nécessaire. Et l'idée même d'une distinction entre l'agent et ses actes, entre la volonté et l'action, paraît erronée. Pour la morale du ressentiment, au contraire, c'est cette distinction qui est centrale. Les agents sont détachés de leurs actions. Ils peuvent choisir librement des actions méchantes ou bonnes, et cela nous justifie à haïr ceux qui font le choix d'agir méchamment. Ils auraient pu faire un meilleur usage de leur liberté. Plongeons une dernière fois dans le texte de Nietzsche avec cet extrait particulièrement violent qui conclut le passage sur les agneaux et les rapaces. Lorsque les opprimés, les humiliés, les maltraités, sous l'empire de la ruse vengeresse de l'impuissance, se mettent à dire « Soyons le contraire des méchants, c'est-à-dire bons. Et bon, quiconque ne fait violence à personne, quiconque n'offense ni n'attaque, n'use pas de représailles et laisse à Dieu le soin de la vengeance. Quiconque se tient caché comme nous, évite la rencontre du mal et du reste, attend peu de choses de la vie, comme nous, les patients, les humbles et les justes. » Tout cela veut dire en somme, à l'écouter froidement et sans parti pris, nous les faibles, nous sommes décidément faibles, nous ferons donc bien de ne rien faire de tout ce pourquoi nous ne sommes pas assez forts. Mais ce rude état de fait, cette intelligence rudimentaire, par ce faux monnayage, cette mauvaise foi de l'impuissance, s'est drapée de la pompe d'une vertu de renoncement, de patience silencieuse, comme si la faiblesse même du faible, c'est-à-dire son essence, ses actes, toute sa réalité singulière, inévitable, indéfectible, était un exploit délibéré, quelque chose de voulu, de choisi, une action, un mérite. Cette sorte d'homme a besoin de la foi dans un sujet doué d'une liberté de choix et d'indifférence, par un instinct de conservation, d'affirmation de soi, où chaque mensonge aime à se sanctifier. Le sujet, ou pour faire plus populaire, l'âme, a peut-être été jusqu'ici le meilleur acte de foi parce qu'il permettait aux communs des mortels, aux faibles et aux opprimés de toutes sortes, ce sublime mensonge à soi-même qui consiste à interpréter la faiblesse elle-même comme liberté et les avatars de cette faiblesse comme mérite. Nietzsche, Généalogie de la morale, première partie. Après s'être convaincu que le rapace a librement choisi d'agir en rapace, et c'est en cela que le rapace est méchant, l'agneau peut ainsi se convaincre que lui-même a librement choisi d'agir en agneau, et c'est en cela que l'agneau est bon. S'il ne commet aucune violence, s'il ne se venge pas quand on l'offense, s'il supporte l'adversité patiemment, c'est bien parce qu'il l'a voulu ainsi. Tout au moins est-il agréable de le croire. Plutôt que reconnaître son impuissance à être fort, il est confortable de penser qu'on a soi-même renoncé à l'exercice de la force, ce que la morale du ressentiment permet de formuler en ces termes « J'ai choisi, en mon âme et conscience et en toute liberté, de ne pas me conduire méchamment. » Et quel mérite, quel courage il faut pour faire ce choix. Si l'agneau attend bien peu de la vie, ce n'est pas parce qu'il est incapable d'obtenir davantage, non, c'est par humilité. S'il fuit un affrontement, ce n'est pas par lâcheté, non, c'est qu'il refuse de se battre. La violence ne résout rien, dira-t-il. Le voilà qui va jusqu'à tendre la joue gauche après avoir été frappé sur la droite. Ô sublime miséricorde! Prenez-en de la graine, vous autres rapaces qui ne voulez pas être aussi humbles, patients, doux et paisibles que ce petit agneau. Quel héros de sagesse il faut être pour savoir se contenter de brouter l'herbe du jour. C'est en tout cas le genre de pensée que Nietzsche pourrait ironiquement attribuer au bon petit agneau, mais il ne manquerait pas d'ajouter que ce brave herbivore n'a pas les dents ni les griffes pour prétendre à mieux et qu'en professant renoncer à ce qu'il ne pouvait obtenir de toute façon, il déguise en abnégation les effets inévitables de sa faiblesse. Pour Nietzsche, c'est dans la pensée judéo-chrétienne que cette falsification des vertus est le plus développée. La figure du Christ est particulièrement symptomatique. Que Dieu Tout-Puissant choisisse le plus humble des hommes pour s'incarner et qu'il aille jusqu'à se laisser mettre en croix, qu'il accepte d'être torturé et exécuté, n'est-ce pas la preuve définitive que la force peut renoncer à s'exercer et qu'accepter la faiblesse est le plus sublime des exploits? Il est bon d'être agneau, puisque Dieu lui-même s'est fait agneau et s'est sacrifié. Si tu souffres, si l'on t'offense, ne cherche donc pas à te venger, subis, tends l'autre joue. Ce n'est pas seulement bon, c'est vivre à l'imitation d'un Dieu. La pensée religieuse va jusqu'à nous consoler de toute souffrance actuelle en nous promettant une récompense incommensurable dans un autre monde. Et l'on pourrait aussi penser, sans trop s'en réjouir bien sûr, que les méchants y seront punis de la pire des façons. « Les derniers seront les premiers », disait le Christ, et plus tard Céline Dion, pour ceux qui s'en souviennent. Peut-on exprimer plus clairement et simplement cette inversion des valeurs aristocratiques ? Que les faibles restent donc tranquilles, ils gagneront à la fin. Mais ce n'est pas ici et maintenant que ce renversement aura lieu, seulement dans un autre monde. Sur Terre, les derniers restent les derniers, et les premiers restent les premiers. C'est ainsi que l'homme du ressentiment en vient à déprécier le monde qui l'entoure avec tant de méchants triomphants et tant de bons persécutés, et à ne supporter sa propre vie que dans l'espérance d'une autre meilleure, plus tard, dans un arrière-monde promis, le seul auquel il accorde réellement de la valeur. Or, aux yeux de Nietzsche, cet arrière-monde espéré est illusoire. Et c'est en cela que la pensée religieuse mène à ce qu'il appelle le nihilisme, une évaluation morale niant toute valeur à ce qui existe. Selon lui, en effet, l'évaluation morale religieuse nie et déprécie la seule réalité qui soit au profit d'une autre inexistante. Nietzsche, à son époque, considérait que la morale du ressentiment avait triomphé avec le christianisme dont, selon lui, les valeurs dominaient et imprégnaient la culture européenne. Que penserait-il de ce début de XXIe siècle? Si nos intuitions morales ont évolué sur bien des points, il ne semble pas que cela ait été dans un sens aristocratique. On pourrait éventuellement reconnaître une forme dégénérée d'évaluation aristocratique dans une certaine idéologie du mérite et dans la distinction winner-loser, Dans l'esprit de certains, cette distinction n'est pas loin de prendre une signification morale, au sens où il serait proprement infamant d'être un loser, et à l'inverse, bien vivre, mener une bonne vie, ce serait avant tout réussir, être un winner. On pourra identifier, quoique sous une forme bien pâle et amoindrie, les traits caractéristiques d'une évaluation aristocratique. Affirmation de soi, valorisation de la force, d'un mérite individuel et l'idée d'une nature bonne ou mauvaise que les actions ne font que révéler. Mais cela reste très superficiel et cette morale du winner ne se compare pas à l'arete ou la virtus des anciens. Et quoi qu'il en soit, par ailleurs, nos intuitions morales nous poussent bien davantage à louer plus que jamais l'altruisme, la compassion, l'égalité, le partage, la solidarité. Cette modernité démocratique et libérale qui s'esquissait à l'époque de Nietzsche lui inspirait le plus profond dégoût. Ainsi, il écrivait « Nous ne travaillons pas pour le progrès, nous n'avons pas même besoin de nous boucher l'oreille pour nous défendre des sirènes du marché de l'avenir. Ce qu'elles chantent, égalité des droits, société libre, plus de maîtres et plus d'esclaves, cela ne nous séduit pas. Nous ne considérons tout simplement pas comme souhaitable que le royaume de la justice et de l'harmonie soit fondé sur terre, parce que ce serait dans tous les cas le royaume de la médiocrisation et de la chinoiserie la plus profonde. » Nietzsche, Le Gai Savoir. Et même si aujourd'hui la promesse religieuse d'un paradis convainc de moins en moins, la haine et la dépréciation du monde tel qu'il est, opposé à ce qu'il devrait être ou à ce qu'il aurait dû rester, comme un paradis perdu, n'ont peut-être jamais été aussi fortes et répandues que parmi nos contemporains. Nous restons bien des hommes du ressentiment, songe Nietzsche, caché sous sa moustache. Quelques livres pour aller plus loin. Friedrich Nietzsche, Généalogie de la morale, Flammarion, collection GF, 2002. C'est une plongée terrible dans la psychologie souterraine du ressentiment. Comment accouche-t-elle d'une évaluation morale ? Après cette première partie qui se penche sur la naissance du méchant, deux autres du même tonneau vous attendent, l'une sur la faute, le châtiment et la mauvaise conscience, et l'autre sur les idéaux ascétiques. Le tout accompagné d'un appareil de notes particulièrement riche pour vous guider dans ce texte touffu. Friedrich Nietzsche, Aurore, Gallimard, 1989. Une des œuvres les moins lues de Nietzsche et qui gagnerait à l'être davantage. Nietzsche y est moins péremptoire et prophétique que dans ses œuvres plus tardives, et celle-ci traite déjà des thèmes qui lui sont chers, notamment sur la morale et son origine, dont il fait un phénomène animal, démontant au passage l'idée si chère aux philosophes d'une spécificité humaine de la morale. Nietzsche écrit « Les origines de la justice, comme celles de l'intelligence, de la mesure, de la vaillance, bref, de tout ce que nous désignons du terme de vertu socratique, sont animales. » Conséquence de ces instincts qui apprennent à chercher sa nourriture et à échapper à ses ennemis. Si nous considérons maintenant que même l'homme supérieur ne s'est élevé et affiné que dans sa façon de se nourrir et dans l'idée qu'il se fait de ce qui lui est nuisible, il ne nous sera pas interdit de qualifier d'animal le phénomène moral tout entier. Aurore, première partie, paragraphe 26. Daniel Alévi, Nietzsche, Le Livre de Poche, 2000. Mettre en perspective la philosophie d'un auteur et les éléments de sa vie, interpréter sa pensée comme un symptôme de cette vie, est une idée très nietzschéenne. Et il faut bien avouer qu'aborder Nietzsche lui-même sous cet angle est particulièrement tentant, si bien que la lecture de cette excellente biographie est peut-être la meilleure façon d'inviter à entrer ensuite dans son œuvre. Je pourrais aussi conseiller le très beau Nietzsche de Zweig, même si le ton est peut-être un peu trop dithyrambique pour être lucide.